Bonjour à toutes et à tous. Le Monde aujourd'hui, VO Afrique, édition du mardi 19 novembre 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Mozambique, le parti d'opposition Renamo demande l'annulation des résultats des élections d'octobre. La Russie a opposé son veto hier à un projet de résolution sur la guerre au Soudan présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa durcit le ton face aux mineurs illégaux. Et dans l'autre partie magazine, au Nigeria, l'inquiétude monte au sujet de l'émergence d'un nouveau groupe d'insurgés connu sous le nom de la Kurawas.
Les gens luttent pour survivre et nous nous battons contre Boko Haram et maintenant un autre groupe terroriste est là.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Echo. Pour l'instant, le journal. Au Mozambique, le parti d'opposition Renamo demande l'annulation des résultats des élections d'octobre qui ont donné vainqueur le parti Frelimo au pouvoir. Le Renamo dénonce des fraudes électorales telles que le bourrage des urnes et la falsification des résultats. Des précisions de Nani Talani.
Nous sommes ici pour appeler à l'annulation immédiate des résultats des élections générales proclamées le 24 octobre. Un gouvernement intérimaire doit diriger le pays jusqu'à la tenue d'élections libres, justes et transparentes, a déclaré le dirigeant de Renamo, Osufo Nomadé, lors d'une conférence de presse hier. Son parti dénonce un processus électoral entaché par le bourrage des urnes en faveur d'un parti particulier, par la falsification de notes, la détention de candidats délégués des partis d'opposition et le dépouillement sans la présence des candidats délégués. Nous appelons les instances judiciaires à prendre des décisions qui garantissent la paix et la réconciliation nationale et respectent la volonté du peuple, a ajouté M. Nomadé. Selon la commission électorale, le Frelimo au pouvoir a remporté les élections avec près de 71% des suffrages contre 20% pour Podemos, de Venancio Mondlane et 6% pour le Renamo. Le Conseil constitutionnel doit confirmer ou infirmer les résultats au moins 2 semaines avant l'investiture en janvier de Daniel Chapo, le candidat du Frelimo, pour succéder au président sortant, Philippe Nyusi.
Au Sénégal, le parti au pouvoir se dirige vers une majorité écrasante au Parlement après les législatives d'hier, dont les résultats provisoires créditent le PASTEF de 3/4 des sièges à l'Assemblée. Cette victoire devrait accorder au président et au premier ministre de disposer la légitimité qu'ils recherchent pour mettre en œuvre leurs réformes. Au Gabon, près de 92% des votants ont dit oui à la nouvelle loi fondamentale. Le taux de participation est estimé à 53,54% selon les données provisoires publiées dimanche soir par le ministère de l'Intérieur. Le texte soumis au référendum renforce les pouvoirs du chef de l'État, supprime le poste de Premier ministre, limite les mandats présidentiels à 2 ans et rend impossible toute succession dynastique du pouvoir. La Russie a opposé son veto hier à un projet de résolution sur la guerre au Soudan présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Un veto fustigé par plusieurs États membres qui espéraient mettre la pression sur les 2 généraux rivaux. Les précisions avec Mouamadou Onfa. La France a pris connaissance de l'arrestation d'un Français survenu mercredi au Niger et met tout en œuvre pour obtenir sa libération. La télévision publique nigérienne a présenté Marius Bersa comme un agent du renseignement français. Paris ne donne pas plus d'éléments sur ce ressortissant français, mais indique que le ministère des Affaires étrangères est pleinement mobilisé pour obtenir sa libération et son départ du Niger. Les relations diplomatiques entre la France et le Niger sont rompues depuis l'arrivée au pouvoir des généraux en juillet 2023. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa durcit le ton face aux mineurs illégaux. Des centaines d'entre eux qui occupent une mine d'or abandonnée sont sommés de vider les lieux. Ramaphosa justifie l'action de la police de leur bloquer l'accès aux vivres pour les sortir, les forcer à sortir. Alexandrine Roulognon.
À ce stade, peu de 1000 mineurs sont sortis et ont été arrêtés, a assuré Cyril Ramaphosa dans un communiqué en qualifiant de crime les lieux de la scène. Les forces de sécurité sont présentes depuis plusieurs semaines devant la mine d'or abandonnée de Stilfontein à 150 km au sud-ouest de Johannesburg et empêchent régulièrement les habitants de ravitailler les mineurs. L'opération policière a fait craindre que les mineurs puissent être affamés ou même mourir. Un corps en décomposition a été retrouvé la semaine dernière dans le puits de la mine. Un tribunal a ordonné à la police samedi de mettre fin à toutes les restrictions autour de la mine et la Commission sud-africaine des droits de l'homme a annoncé qu'elle menait des enquêtes sur certains décès. Lundi, la police a assuré que de la nourriture, de l'eau et des boissons ont été envoyées dans la mine pour donner aux mineurs assez de force pour qu'ils puissent sortir. Selon un habitant, le nombre de mineurs encore présents dans la mine serait de 4000, mais la police estime qu'ils sont des centaines.
La Russie a opposé son veto hier à un projet de résolution sur la guerre au Soudan présenté au Conseil de sécurité de l'ONU. Un veto fustigé par plusieurs États membres qui espéraient mettre la pression sur les deux généraux rivaux. Les précisions avec Mouamadou Oumfa.
Le projet de résolution a été préparé par le Royaume-Uni et la Sierra Leone. Il appelait les parties à cesser immédiatement les hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue pour permettre des étapes vers une désescalade dans le but de se mettre d'accord de façon urgente sur un cessez-le-feu national. Le texte a recueilli 14 voix pour et une contre. L'ambassadeur russe adjoint Dimitri Polianski, assurant que Moscou souhaite un cessez-le-feu mais décidé par les parties elles-mêmes, a justifié son veto en dénonçant un projet au parfum postcolonial. Il a également accusé les Britanniques d'avoir, pendant les négociations, empêché toute mention des autorités légitimes du Soudan. Un pays a empêché le Conseil de parler d'une seule voix, un pays est l'ennemi de la paix, ce veto russe est une honte, la Russie montre une nouvelle fois au monde quel est son vrai visage, a fustigé le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, qui présidait la réunion. La Russie affirme être pour et avec les Africains, mais vote contre une résolution soutenue par les Africains pour les Africains, a renchéri l'ambassadrice américaine Linda Thomas-Greenfield. Si lors des précédentes résolutions sur cette guerre, la Russie s'était abstenue, elle s'est montrée récemment de plus en plus clairement alignée avec le camp du général Burhan, avait commenté un diplomate avant le vote.
Le Kremlin a mis en garde hier contre une nouvelle escalade et a promis une réponse appropriée en cas de tir de missiles à longue portée contre la Russie après le feu vert donné à Kiev par les États-Unis. Dans le même temps, une nouvelle frappe russe a fait au moins 10 morts et des dizaines de blessés à Odessa. Claire Morin-Gibourg.
L'utilisation par Kiev de missiles de longue portée pour attaquer notre territoire signifierait la participation directe des États-Unis, a déclaré la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. La réponse de la Russie dans un tel cas sera appropriée et se fera sentir, a-t-elle ajouté. Réclamée par Kiev depuis des mois, la décision de Joe Biden sur les missiles a été confirmée dimanche par un responsable américain. Le premier ministre britannique Keir Starmer n'a pas souhaité dire hier si le Royaume-Uni allait autoriser l'Ukraine à utiliser ses missiles longue portée Storm Shadow lors d'une interview avec les médias britanniques au Brésil, où il participe au sommet du G20. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a effectué une tournée sur le front Est à Pokrovsk, cible des attaques russes dans le Donbass. Il a accueilli avec prudence les informations selon lesquelles Washington autorisait Kiev à frapper le territoire russe avec les missiles de longue portée, se contentant de noter que ces armements parleront d'eux-mêmes.
Les conflits se sont invités à l'ouverture du sommet du G20 à Rio de Janeiro avec un appel de Joe Biden pour l'Ukraine et un cessez-le-feu au Proche-Orient, tandis que le Chinois Xi Jinping a averti sur une ère de tolérance à quelques semaines du retour de Donald Trump. Joe Biden a aussi appelé le G20 à augmenter la pression sur la masse pour un cessez-le-feu avec Israël, assurant qu'il allait continuer à œuvrer pour un accord avant de quitter le pouvoir. Le président russe Vladimir Poutine, qui avait déjà manqué les derniers sommets, et le grand absent à Rio. Donald Trump a dit lundi vouloir déclarer l'état d'urgence national pour appliquer son projet d'expulsion en masse de migrants et a confirmé qu'il comptait utiliser les forces armées en ce sens. Les États-Unis comptent plus de 11 millions d'immigrés en situation irrégulière selon les estimations et des associations des droits humains s'inquiètent des ravages du projet du républicain sur cette population et sur l'état de droit. Le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un a rencontré lundi le ministre russe des ressources naturelles à Pyongyang, selon l'agence officielle nord-coréenne KCNA. C'est dans un contexte de renforcement des liens entre les deux pays, notamment dans la guerre en Ukraine. Voilà pour le journal. Vous écoutez VOA Afrique. Faisons la minute éco avec Nanita Lani.
Les agriculteurs de Côte d'Ivoire redoutent l'arrivée précoce des vents de l'Harmattan qui pourraient négativement affecter la production de cacao et entraîner une pénurie de fèves à partir de février. L'Harmattan, qui assèche le sol, risque de réduire la taille et la qualité des fèves. Dans des régions comme Daloa, Bangwanou et Yamoussoukro, des précipitations inférieures à la moyenne tombée la semaine dernière, alimente ses craintes, ont confié les agriculteurs lundi. Les autorités sud-africaines ont instauré une interdiction de pêche commerciale autour de 6 colonies de manchots du Cap qui sont en danger critique d'extinction, alors que les ONG appellent à une restriction accrue de la pêche industrielle. Il reste moins de 10 000 couples reproducteurs de ces manchots en Afrique australe à cause du manque de nourriture aggravé par le changement climatique, les maladies et les perturbations humaines.
Place maintenant sport avec Eric Manelakiza. Bonjour Eric.
Bonjour Rosine.
La Confédération africaine de football, CAF, a officiellement révélé la liste des 5 finalistes nommés dans chaque catégorie masculine des CAF Awards 2024.
Parmi les prétendants au prestigieux titre de joueur africain de l'année figurent Simon Adingra de la Côte d'Ivoire et joueur de Brighton & Hove Albion, le Guinéen Serou Guirassy du Borussia Dortmund, Achraf Hakimi du Maroc, star du Paris Saint-Germain, Ademola Lookman du Nigeria évoluant en Italie à l'Atalanta et Ronwen Williams de Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud. La prestigieuse cérémonie des CAF Awards se déroulera à Marrakech, au Maroc, le 16 décembre 2024. Les autres catégories annoncées lundi comprennent gardien de l'année, joueur interclub de l'année, entraîneur de l'année, jeune joueur de l'année, club de l'année, équipe nationale de l'année. La cérémonie qui rend hommage à l'excellence du football africain vise à reconnaître les performances exceptionnelles réalisées tant en club qu'en compétition nationale, avec l'attribution des titres prestigieux de joueur africain de l'année dans les catégories masculines et féminines. Au total, 7 catégories ont été confirmées par la CAF dans la catégorie masculine et les 5 meilleurs joueurs, entraîneurs et équipes ont été sélectionnés dans chacune de ces catégories. Les CAF Awards 2024 couvrent la période allant de janvier 2024 à octobre 2024.
En France, le Trophée des Champions à Doha le 5 janvier 2025.
Le Trophée des Champions 2024 entre le Paris Saint-Germain et Monaco, initialement programmé en Chine l'été dernier, se tiendra à Doha au Qatar le 5 janvier prochain, a expliqué à l'AFP lundi une source proche de la Ligue de football professionnel. C'est le conseil d'administration dont l'instance réunie lundi après-midi qui a validé cette solution priorisée par les deux clubs concernés, selon cette même source. Prévu à Pékin le 8 août 2024 pour célébrer le 60e anniversaire des relations diplomatiques franco-chinoises, la rencontre de gala entre le champion de France parisien et son dauphin monégasque avait été annulée par les autorités chinoises, toujours selon la même source.
Le milieu de terrain de Tottenham Bettencourt est suspendu 7 matchs pour propos racistes.
Rodrigo Bettencourt ne disputera pas les 7 prochains matchs domestiques de Tottenham, Premier League, Coupe de la Ligue, et ne pourra faire son retour qu'à compter du 26 décembre. Malgré les excuses présentées par le joueur uruguayen de 27 ans,
la Fédération anglaise de football FA l'a suspendu lundi pour des propos jugés racistes envers son coéquipier sud-coréen Son Heung-min, tenu lors d'une interview télévisée. La FA, qui avait engagé une procédure contre l'international uruguayen, l'a en outre condamné à une amende de 100 000 livres, près de 120 000 euros.
Merci Eric.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Rosine Munezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Nigeria, l'inquiétude monte au sujet de l'émergence d'un nouveau groupe d'insurgés connu sous le nom de l'Akurawas, opérant principalement dans la région du nord-ouest du pays. Selon les autorités militaires, le groupe est originaire de la région du Sahel. Au moins 15 personnes ont été tuées dans l'état de Kebbi, au nord-ouest du Nigeria, suite à un affrontement entre les villageois et ce groupe armé. Le reportage de Gilbert Tamba à Abuja.
Depuis plus d'une décennie, le Nigeria fait face à une insurrection de Boko Haram. Une menace majeure pour l'État nigérien, entraînant la mort de milliers de personnes, la destruction des biens et plus de 2 millions de personnes déplacées de l'intérieur du pays. L'annonce de la naissance d'un nouveau groupe de terroristes par l'armée nigérienne suscite l'inquiétude des populations.
Disons que chaque administration a un nouveau groupe terroriste. Sous Jonathan, c'était Boko Haram. Sous Buhari, c'était le banditisme, les éleveurs peuls. Et autres. Et maintenant, sous le régime de Tinubu, nous entendons parler de ce nouveau groupe, le Karawa. Donc, je me sens vraiment mal. Nous n'avons pas fini avec ceux avec lesquels nous faisions face. Et voilà que vient s'ajouter un autre groupe terroriste.
Les gens luttent pour survivre et nous nous battons contre Boko Haram et maintenant un autre groupe terroriste est là. Je ne sais donc pas ce que fait le gouvernement à ce sujet, car c'est un problème auquel le gouvernement peut s'attaquer s'il veut vraiment que cela cesse. Beaucoup de gens meurent chaque jour. Nous perdons des gens.
Selon le porte-parole de l'armée nigériane, le général Edward Buba, les Lakurawas, comme on les appelle ici, ont infiltré les États du nord-ouest de Sokoto et de Kebbi après le coup d'État de l'année dernière, profitant des relations troubles entre le Nigeria et le Niger et qui avaient perturbé les patrouilles de sécurité régionale conjointes.
When those people came in, the citizens welcomed them.
Quand ces gens sont arrivés, les citoyens les ont accueillis, ils ne les ont pas dénoncés, et ils pensaient qu'ils étaient des saints jusqu'à ce qu'ils ont commencé à mener certaines activités contre eux, et puis nous avons commencé à entendre parler d'eux, et maintenant ils réagissent. Donc nous prévenons et nous disons, s'il vous plaît, aidez-nous à vous aider si vous voyez des étrangers dans votre communauté, votre localité, vous ne comprenez pas. Faites-nous signe afin que nous sachions quoi faire.
L'idéologie du nouveau groupe n'est pas encore connue. Cependant, son émergence signale une menace croissante dans le nord-ouest du Nigeria, déjà confronté à des attaques de gangs armés et à des enlèvements contre rançon. L'analyste sécuritaire Moussa Salman s'est dit préoccupé, mais pas surpris.
Ce groupe est présent dans une zone générale depuis environ 8 ans, de 2016 à 2018. Mais peut-être que ce qu'il a qualifié de nouveau, c'est que c'est la première fois qu'ils font la une des journaux. Et c'est la première fois qu'ils se lancent dans peut-être une très grande déclaration audacieuse ou à travers leurs actes de terrorisme.
En août dernier, le chef d'état-major de la défense du Nigeria s'est rendu au Niger dans le but de renforcer les liens militaires et la sécurité régionale. Les autorités et les forces de sécurité promettent de protéger les citoyens dans cette zone. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.
De la Mauritanie au Tchad,
du Mali au Burkina Faso,
du Niger au Nigeria,
Focus Sahel aborde les questions urgentes qui affectent la région.
La sécurité, la liberté d'expression, l'éducation,
les questions sociales,
l'esprit d'entreprise.
Focus Sahel vous invite au cœur de la conversation dans cette importante région d'Afrique.
Focus Sahel, en direct de Washington, sur VOA Afrique.
Au Mali, le Premier ministre a fait une sortie musclée ce week-end sur la transition. Dans cette sortie, Comme rarement, il s'en prend ouvertement aux autorités militaires qui, selon lui, n'auraient aucun agenda sur la sortie pour la sortie de la transition. Pourquoi cette sortie est maintenant ? Des Maliens donnent leurs avis au micro de notre correspondant Mohamed Danyuko.
Je dirais que c'est la rupture, c'est une rupture, mais ça va au-delà du fonctionnement qui se trouve depuis longtemps, selon les rumeurs, entre les dirigeants du pays. Et ça, ce n'est pas normal. Il est temps que il s'assoive, ou bien de se débarrasser du Premier ministre, ou bien de travailler avec lui-même dans la main pour que le pays sorte dans cette crise. Et tenir ce discours, vraiment, nous déplorons cela. Et si nous l'écoutons, il n'égrène que, c'est-à-dire des points qui l'opposent au pouvoir en place. Et au-delà de cette opposition, en tant que responsable, nous aurons aimé qu'il fasse des propositions de sortie du problème dans lequel le pays se trouve. Et se contenter seulement des critiques, c'est vraiment nous déplorons cela.
Je pense que, comme bon nombre de citoyens, ça n'a peut-être pas été surprenant ou bien étonnant, parce que déjà, quand on se réfère au mémorandum qu'il a produit, je pense que c'est la suite logique de ce qui a été dit dans ce mémorandum. On a comme l'impression que le Premier ministre veut se totalement. Et bon, en fait, il veut mettre toute la charge sur la transition, les militaires, et lui, bon, personnellement, il est propre comme, je ne sais pas, comme neige. C'est ce qu'on a comme l'impression.
La sortie du Premier ministre n'a fait que confirmer, à mon avis, ce que déjà beaucoup de personnes soupçonnaient en bas, c'est-à-dire un désaccord entre lui et les cinq généraux. Je pense que à partir de là, chaque parti devra essayer de se ressaisir et trouver un terrain d'attente pour le bien de tous les Maliens.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le Brésil accueille le sommet du groupe des 20. La réunion de Rio de Janeiro, qui se tiendra jusqu'à ce mardi, se déroule au milieu de deux guerres majeures et environ deux semaines après la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle américaine. Le président américain sortant, Joe Biden, a envoyé à son successeur un message en faveur de la protection de l'environnement dimanche lors d'une étape en Amazonie brésilienne. Joe Biden est le premier président américain en exercice à visiter l'Amazonie. Quelle importance symbolique revêt ce voyage ? Réponse du porte-parole francophone du gouvernement américain, Johann William Schmantis, joint par Alexandrine Rolognon.
La préservation du climat et de l'environnement était toujours une grande priorité pour l'administration et pour les États-Unis aussi. Il y a un grand soutien parmi le peuple américain et le Congrès pour que sauvegarder les espaces sauvages et pour continuer à sauvegarder les espèces sous menace peuvent continuer à survivre. Ça, c'est un intérêt des États-Unis qui va continuer en permanence.
Le président américain a lancé dimanche un message pour protéger l'environnement à l'adresse de son successeur Donald Trump. Il a appelé à œuvrer pour l'humanité. Quel message les États-Unis souhaitent-ils envoyer de leur engagement environnemental et est-ce qu'on doit s'attendre à d'autres annonces de la part de Joe Biden?
Les grands axes de l'engagement américain dans ce sommet, il y a la sécurité alimentaire, aussi la sécurité sanitaire, en reconnaissant que les peuples du monde, ils ont le droit à des soins médicaux, et aussi pour les sauvegarder des nouvelles pandémies, par exemple. Aussi l'utilisation de l'IA de façon responsable et la capacité des peuples autour du monde pour bénéficier de l'avenir technologique qui est en train de venir actuellement. La transition énergétique verte et partenariat pour les sécurités de minéraux. C'est aussi un de nos points. Finalement, il y a l'inclusion des femmes dans le développement durable. Ça, c'est un grand point pour les États-Unis pour ce sommet. Alors, il y a plusieurs grands axes sur le terrain de travail.
De manière générale, ce sommet se tient parallèlement à la conférence de l'ONU sur le climat en Azerbaïdjan et le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé les dirigeants du G20 à assumer leurs responsabilités, leur leadership pour aboutir à un résultat positif dans les négociations sur la conférence sur le climat. Selon vous, quelle sera la place, de manière générale, quelle sera la place réservée au climat dans ce sommet du G20?
On ne peut pas séparer ce qui se passe actuellement à Bakou avec la COP29 et ce qui se passe ici en G20. Les deux conférences sont très importantes pour le gouvernement américain. Nous souhaitons un résultat positif dans les deux conférences. Les accords à Bakou sont toujours sous discussion. Les intérêts américains et les grands points américains sont connus que nous essaierons de faire face au défi du changement climatique de façon responsable pour sauvegarder l'avenir de nos enfants et du monde, mais en même temps assurer une transition de l'énergie verte et combler les besoins de la population mondiale.
Le Brésil, John William Schmontis, porte-parole francophone du département d'État. Ici aux États-Unis, certains des ministres choisis par le président élu Donald Trump sont qualifiés de controversés dans les cercles démocrates et républicains. Le président républicain de la Chambre des représentants, Mike Johnson, a rappelé dimanche que le peuple américain avait voté pour en finir avec le statu quo et c'est ce que ces nouveaux membres du gouvernement, s'ils sont confirmés, auront pour tâche de faire. Plus de détails avec Veronica Balderas Iglesias de la VOA, le récit est de Mamadou Oumfa.
Le président élu Donald Trump a continué à annoncer les nominations de ses ministres au cours du week-end, dont celle de Chris Wright, un défenseur de l'industrie pétrolière et gazière qui occuperait le poste de secrétaire à l'énergie. Trump a donné la priorité à des personnalités loyales pour les postes clés de son gouvernement. Un choix en particulier, celui de l'ancien membre républicain du Congrès, Matt Gaetz, au poste de procureur général, continue de susciter la controverse. Avant que Gaetz ne démissionne la semaine dernière, un comité d'éthique de la Chambre des représentants avait enquêté sur son comportement sexuel et sa consommation de drogues illicites. M. Gaetz nie ces accusations. Le sénateur démocrate Adam Schiff a déclaré lors de l'émission State of the Union de CNN que M. Gaetz n'était, selon lui, pas qualifié pour occuper le poste proposé.
Nous allons vraiment avoir un procureur général qui, selon les allégations crédibles, a été impliqué dans un trafic sexuel d'enfants, une utilisation potentielle de drogues illicites, une obstruction à l'enquête, qui n'a aucune expérience au sein du ministère de la Justice et qui a seulement fait l'objet d'une enquête de la part de ce dernier.
Le sénateur républicain Mark Wayne Mullen estime que le Sénat devrait avoir accès aux conclusions de l'enquête, mais il a déclaré à l'émission Meet the Press de NBC que M. Gaetz méritait une chance d'être confirmé dans ses fonctions.
Je n'ai aucun doute sur le fait que le président Trump pense que Matt est la bonne personne pour faire le bon travail. Matt sera traité de la même manière que tous les autres candidats.
Le chef de la minorité de la Chambre des représentants, le représentant démocrate Hakeem Jeffries, a également réagi dimanche sur NBC. Il a remis en question les choix ministériels du président élu Trump, dont certains nommés manquent d'expérience dans les fonctions qu'ils se proposent d'exercer.
Est-ce que c'est ce que l'Amérique a de mieux à offrir dans un moment comme celui-ci, avec tous les défis auxquels nous sommes confrontés? Bien sûr que non.
En votant pour Donald Trump, les Américains ont donné aux républicains le mandat de mettre fin au statu quo, a souligné le président de la Chambre des représentants, le républicain Mike Johnson. Il s'est exprimé sur l'état de l'Union sur CNN.
Tout président a le droit de nommer son propre gouvernement, de nommer les personnes qu'il pense capables de réaliser son programme. Et c'est ce que feront les personnes figurant sur cette liste. Elles iront dans les agences qu'on leur demande de diriger et les réformeront.
La plupart des ministres choisis par M. Trump devraient être rapidement approuvés par le Sénat à l'issue des auditions de confirmation. Le président élu a également demandé aux dirigeants républicains du Sénat de lui permettre de procéder à des nominations d'urgence, ce qui ferait des auditions de simples formalités.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, Rosine Monezero, à la mise en onde, Lionel Lunani-Lagahima. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.